Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Mon nom est Andréane Jutras et quelle joie de vous accueillir encore aujourd'hui dans cette grande discussion tellement nécessaire. Si vous avez un périnée, eh bien cet épisode est pour vous. Et là, normalement, tout le monde devrait être resté en ce moment. Je suis très heureuse de vous présenter l'épisode et bien honnêtement, j'espère qu'il fera beaucoup de chemin, qu'il ira visiter le plus d'oreilles possible. D'ailleurs, si vous contribuez à son rayonnement en le partageant, sachez d'ores et déjà que vous avez toute ma reconnaissance parce que l'éducation, la sensibilisation à ce sujet doit passer. Le plancher pelvien, c'est un méconnu, un sous-estimé, un mal-aimé parfois, et sa négligence, bien qu'elle soit involontaire souvent, peut amener son lot de problématiques. Des problématiques aux symptômes qu'on normalise, qu'on banalise, mais qui peuvent tellement nuire au quotidien des gens qui vivent avec et même leur faire honte. En 2021, on peut-tu, s'il vous plaît, arrêter de porter la culpabilité pour des phénomènes physiques qui sont naturels et juste en parler ouvertement pour que les solutions soient à la portée de tous? Plus on se tient dans l'ombre, plus c'est difficile pour la lumière de venir nous caresser. Donc, aujourd'hui, on va jaser de plusieurs sujets, entre autres de fuite urinaire, d'incontinence, de douleur lors des relations sexuelles. Et là, peut-être que vous m'entendez dire tous ces sujets et que vous vous dites « Ah, mais ça ne me concerne pas ». Bien, c'est possible que oui, ça ne vous concerne pas, mais vous allez être peut-être aussi surprise de voir à quel point on banalise les symptômes d'un plancher pelvien qui a besoin d'attention. Et ça, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez eu ou non des enfants. Merci à notre invité du jour, Michel Briand, qui est physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne, ainsi que professeur de yoga, qui vient démystifier, clarifier et surtout nous éclairer sur ce sujet dont on ne parle pas, ou très très peu. Michel est une humaine très ancrée, vous allez le voir, vous allez le sentir, sa douceur nous enveloppe et on boit ses paroles en oubliant même ce qu'est le temps. Et ça, même quand elle nous explique des éléments plus techniques, elle est une excellente vulgarisatrice. Et là, petite anecdote ici, j'ai envie de le dire parce que j'ai connu Michel en tant qu'auditrice du podcast. Elle m'avait envoyé un doux message à l'époque, je crois, sur le podcast et elle a rapidement attiré mon attention. Je vous l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de perles parmi vous. Alors merci d'être ici. J'étais très heureuse quand Michel est venu à moi parce que ça faisait longtemps que je voulais aborder le sujet de la santé pelvienne, mais je n'avais pas trouvé la bonne personne. On a quand même des standards ici sur le podcast. Donc, je voulais avoir une experte. Ça, c'était sûr, je voulais une experte, mais aussi quelqu'un de vraiment passionné. Et pas juste passionné par son expertise, mais par l'humain, dans sa grande plénitude. Et bien demandez et vous recevrez, comme on dit. Michel est une professionnelle dévouée qui considère l'entièreté de l'humain devant elle et les différentes connexions possibles. Son approche est tellement bienveillante, donc immense merci à elle pour tout ce qu'elle nous livre comme information de qualité aujourd'hui. Je vous invite à visiter les liens dans la description pour découvrir ses prochains ateliers sur la maternité et aussi sa boîte à outils pelvienne pour les relations sexuelles sans douleur et épanouissantes. Je tiens à préciser aussi qu'évidemment, l'épisode d'aujourd'hui sert à amener de la lumière, mais bien sûr, ne peut constituer un avis médical et que, dépendamment du moment où vous allez écouter cet épisode aussi, c'est possible que de nouvelles techniques, de nouveaux exercices ou de nouvelles visions aient fait leur apparition. Donc, s'il vous plaît, retrouvez Michel sur son site pour de l'information mise à jour. Alors, voilà. Oui, juste avant de plonger dans notre discussion, deux petites choses. D'abord, je vous invite à me retrouver sur mon site web afin de découvrir mon dernier atelier sur mon outil de manifestation par excellence, la chose qui me permet de cultiver tout ce que je souhaite voir fleurir dans le jardin de ma vie et j'ai nommé le Vision Board. Tout ce que je mets sur mon Vision Board se réalise. Je suis rendue à mon 3e et 4e depuis 2 ans. Oui, déjà, parce que, ben oui, quand les choses se réalisent, c'est le temps d'en faire un autre. Et j'ai toujours le même immense plaisir à le fabriquer et surtout, surtout, à l'admirer à chaque jour. Je vois mes vision boards comme mon coach personnel, pour vrai. J'ai même converti mon conjoint qui a également le sien dans la cuisine à côté de notre vision board commun. Je vous le jure, ça a été un exercice tellement complètement transformateur pour notre couple. C'est comme s'ouvrir, se mettre à nu dans ses plus grandes aspirations. On en vient à mieux comprendre l'autre aussi et le soutenir dans ses actions inspiré dans le quotidien. Et là, attention, je vous vois avoir en tête le vision board un peu quétaine avec des images de magazines qui a l'air d'un bricolage pas tant wow et qui finit par ne plus nous inspirer chaque jour, qu'on finit par mettre un peu de côté. Ce n'est pas du tout ce que je vous propose. Dans cet atelier, vous apprenez comment réaliser une création numérique unique, 100% dans votre essence, avec des images 100% alignées sur vos réelles aspirations. Je vous explique la théorie, le pourquoi ça fonctionne, l'énergie, tout ça, les facteurs clés de succès, mais aussi les pièges à éviter qui font que ça ne fonctionne pas souvent. Je vous partage aussi mes 3 derniers vision boards, je vous fais une belle présentation guidée à travers ceux-ci et surtout, je vous guide dans une visualisation et des exercices introspectifs pour clarifier ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Ça a l'air simple parfois, on pense qu'on le sait, mais finalement, on le sait pas trop. On se rend compte rapidement que c'est pas si clair qu'est-ce qu'on veut et à quel point on peut être influencé et confus parfois dans certaines choses. Donc là, par la suite, essayez de voir les opportunités quand elles se présentent, quand vous opérez à partir d'une place d'un peu de flou, de confusion. Donc si ça vous intéresse, joignez-vous à moi dans cet atelier qui est enregistré. Vous pouvez le faire à votre rythme, quand vous voulez, disponible quand vous le souhaitez. Tous les détails sont en descriptif de l'épisode ou encore sur mon site web andreanejutra.com. Dernière petite chose, et oui, je remercie nos commanditaires de cœur qui soutiennent les discussions présentées ici. D'abord, l'école d'herboristerie en ligne Les Âmes Fleurs pour révéler l'herboriste en vous et lui permettre d'être au service des siens grâce à la médecine, oui, et la magie des plantes. Et la main bleue. Ah, la main bleue, créatrice de bijoux et de magie. Elle vient de sortir une nouvelle collection et wow! Merci Mélanie de nous inspirer, de nous orner avec tes créations remplies d'amour. Merci d'offrir une louve aussi à chaque invité qui passe sur le podcast. Merci pour ta générosité. Merci d'être. Merci de faire ce que tu fais. Merci d'être qui tu es. Si tu écoutes cet épisode, en fait, je sais que tu vas écouter l'épisode, je sais juste pas quand, mais quand tu vas l'entendre à tes oreilles, entends bien ceci. Je t'aime, merci. Et merci à toutes celles qui arborent fièrement leur louve. Si c'est toi qui écoutes en ce moment, peut-être même avec ta louve au cou, eh bien, accepte aussi ce message de mon cœur au tien. Je t'aime, merci de porter cet emblème qui porte tant de messages autour du féminin sauvage, mais qui porte une cause aussi. Alors, merci. Et sur ce, je vous souhaite une fabuleuse écoute et une fabuleuse découverte de la magnifique et grande personne qu'est Michèle Briand. Féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute. Michèle Briand, brillante, bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi. Vraiment très heureuse d'être ici.
Ah, là, j'espère que cet épisode-là va faire beaucoup de chemin parce qu'on parle d'un sujet tellement important qui est très peu abordé ou abordé de façon souvent mal informée. Donc, je trouvais ça super intéressant de t'avoir, toi, avec tout ton bagage et aussi toute ton ouverture spirituelle pour venir nous parler de l'univers, appelons-le, tiens, pelvien, dans toutes ses nuances et avec la grande ouverture que tu as. Pour moi, ça a été vraiment comme super riche de trouver une personne comme toi qui parlait de ces différents aspects-là. Alors, merci d'être ici encore une fois.
Merci.
Les deux questions qui débutent chacun des épisodes, et bien sûr, tu n'y échappes pas. Comment nourris-tu ton féminin?
C'est tellement une belle question, je trouve. C'est quelque chose que je dois cultiver, mon côté, mon énergie féminine, parce que j'ai beaucoup de drive, j'ai beaucoup d'énergie masculine en moi. Pour le meilleur et pour le pire. Et donc, des fois, ça fait qu'on a beaucoup, beaucoup de projets. Et c'est ça, donc c'est important pour moi de cultiver mon énergie féminine en ce sens que je m'assure d'aller dehors régulièrement, de connecter avec la nature le plus possible, même si j'habite en ville, c'est possible de le faire. Des fois, on a la croyance que ce l'est pas. Mais oui, c'est possible. Donc, juste d'aller dehors, de marcher, de vraiment se connecter à la nature, ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et sinon, j'ai vraiment un mantra que je reviens régulièrement parce que c'est quelque chose, comme je disais, que je dois cultiver. Et c'est « je suis plus que je fais ». Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que je trouve qu'on est tellement facilement dans le faire, mais il faut revenir à l'être. Donc, je me le répète régulièrement. Ouais.
Wow.
C'est quelque chose. Puis sinon, ben, j'ai mon non négociable, que c'est un yoga yin pour sûr par semaine, peu importe qu'est-ce qui se passe. J'ai besoin de ce temps-là pour m'ancrer, revenir vers moi. Fait que je te dirais que c'est les stratégies principales que je mets en place.
Comment honores-tu ta nature?
Ouais, c'est tellement une bonne question parce que c'est de dire c'est quoi notre nature? C'est quoi notre nature profonde? Puis en fait, j'ai l'impression que notre nature est tout le temps présente. C'est juste qu'il peut y avoir des couches par-dessus. Donc, je pense que c'est surtout de faire un ménage dans ces couches-là. De revenir à l'essentiel, puis de moins se prendre la tête. Donc, de sortir encore là de notre to-do list ou des choses qu'on s'oblige de faire, des certains conditionnements, des choses comme ça. Donc, de vraiment revenir à l'essentiel. Puis, ce que j'aime bien faire, c'est un check-in régulier pour voir où est-ce que je suis assez dans la légèreté, dans le plaisir, dans le rire, ou c'est quelque chose que j'ai pas connecté avec pendant, tu sais, peut-être ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, ben là, on revient à cette énergie-là, puis d'être plus dans la légèreté. Fait que je pense que c'est comme ça que je me reconnecte à mon centre, puis à ma vraie nature, en laissant place à ça. Fait qu'en déchargeant qu'est-ce qui est plus lourd, puis en revenant à ce qui est plus léger.
Merci pour ces deux belles réponses. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Plongeons dans notre bassin.
Oui.
Je commence tout de suite en amenant une clarification. Parce que là, souvent, on entend plancher pelvien, périnée, et là, les deux se mélangent un petit peu comme un peu des synonymes. Est-ce que ce sont la même chose? Plancher pelvien, périnée, est-ce que c'est la même chose?
C'est vrai hein, qu'on les interchange souvent. En fait, c'est que le périnée va être plus un ensemble de structures, c'est plus lié à une région comme telle. Et les muscles du plancher pelvien, là, on parle vraiment de la musculature. Donc, dans le périnée, on va avoir les muscles, mais aussi des fascias, des ligaments, toutes sortes de choses par rapport à la musculature du plancher pelvien, qui, elle, c'est vraiment nos muscles. Quand on parle des exercices de Kegel, ce qu'on reviendra peut-être plus tard, c'est un ensemble de muscles qui referment vraiment la base du bassin, qui s'attache de la symphyse en avant au niveau de notre pubis jusqu'au coccyx à l'arrière. Donc, ça fait comme une espèce de hamac de muscles qui refaire notre bassin. Et je te dirais, la différence principale, c'est vraiment plus, il y en a un, c'est plus côté musculaire, puis l'autre, c'est plus une région, un ensemble de structures. Mais oui, des fois, on les interchange, effectivement.
Okay. Donc, c'est pas nécessairement mal de les interchanger, c'est juste que c'est plus précis d'utiliser, par exemple, le plancher pelvien quand on parle d'exercice, par exemple, de Kegel.
Exactement.
Merveilleux. Est-ce que les hommes ont un périnée?
Oh que oui!
Parce que souvent, les femmes, on leur parle beaucoup de leur périnée, mais les hommes, on leur en parle pas beaucoup.
Oui, absolument. Oui, il y en a un. Ils ont les muscles, ils ont tout. On s'entend, il y a une différence anatomique plutôt flagrante. Hein? Il y a quand même quelque chose de différent. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire de dessin ici. Mais en gros, mis à part le fait qu'au niveau de la femme, là, il y a quand même des différences anatomiques, il y a quand même les mêmes structures, il y a de la musculature et les hommes peuvent avoir des problématiques au niveau de la zone pelvienne. Donc oui, effectivement, l'homme a un plancher pelvien ou un périnée.
Les problématiques de la zone pelvienne pour des hommes, on va commencer par eux. Tiens, il y en a des loups qui écoutent le podcast. Donc, pour vous, ça peut ressembler à quoi? Mettons des petits indicateurs, des petits symptômes qui peuvent avoir des choses, puis les choses en tant que telles, donc la problématique en tant que telle qui peut survenir.
Oui. Il y a des choses qui vont beaucoup s'apparenter aux femmes. Donc, il va y avoir, par exemple, les fuites urinaires de gaz, de sel, des difficultés d'évacuation aussi, urine, gaz, sel. Il va y avoir des douleurs aussi potentielles. Surtout, je te dirais, il y a beaucoup, par exemple, les gens qui font beaucoup de routes, les hommes qui font beaucoup de routes ou les cyclistes. Souvent, il peut y avoir des problématiques au niveau pelvien parce qu'il y a beaucoup de compression au niveau du périnée et des nerfs qui sont dans cette zone-là. Sinon, il peut y avoir des dysfonctions érectiles, de l'éjaculation précoce. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut aider en physiothérapie périnéale. Alors, c'est quand même vaste qu'est-ce que les hommes peuvent présenter comme symptômes.
Puis quand il y a de la compression, c'est quoi un petit peu le genre d'exercice qu'on peut faire pour venir justement défaire la problématique?
Oui, il y a des habitudes de vie qu'on peut avoir, du style se lever régulièrement, pas trop faire des long rides de vélo, par exemple.
Okay.
Avoir des selles qui sont un petit peu plus confortables, un peu plus rembourrées. Pour les gens qui font beaucoup de route, peut-être se lever régulièrement ou avoir un coussin supplémentaire, il y en existe pour ça. Sinon, la respiration, elle est très importante pour venir dégager la zone pelvienne, que ça soit chez l'homme, chez la femme. Et sinon, il y a de l'assouplissement qu'on peut faire aussi, mais là, je conseille vraiment d'être guidée par rapport à ça.
Absolument. Puis d'ailleurs, vous allez voir dans l'épisode, l'épisode ne constitue aucunement un avis médical. Je vais sûrement l'avoir abordé en intro. C'est vraiment plus comme des petites lumières pour vous éclairer par rapport à certaines choses qui peuvent se produire dans votre corps que vous n'étiez même pas conscient parce qu'on n'en parle tellement pas qu'à un moment donné, on normalise alors que ce n'est pas normal. Tu sais, comme les fuites urinaires, c'est tellement un beau sujet parce que tout le monde normalise ça comme si, une femme a accouché, c'est normal, ou pour X raisons, mais ce ne devrait pas être vu comme une fatalité du moins. Donc, c'est vraiment pour allumer des petites lumières, peut vous inviter à aller consulter un professionnel si vous sentez que vous avez l'appel d'aller voir un petit peu plus loin, mais de ne pas prendre cet épisode-là, évidemment, comme un avis médical parce qu'on va aborder les thématiques en large. Donc, merci pour cette précision-là sur les hommes. Ça m'a même surprise quand tu as dit, par rapport au gaz, que ça peut avoir un lien avec le périnée.
Absolument. Oui.
D'aller nous expliquer un petit peu. Yes, on y va.
Oui. Donc, je parlais tantôt de la musculature du plancher pelvien et elle vient vraiment créer une espèce de hamac qui referme, comme je disais, la base du bassin et qui vient s'attacher à différents points. Il y a plusieurs muscles, en fait, dans le plancher pelvien, mais souvent, on réfère à muscles du plancher pelvien parce que c'est un peu plus simple et souvent, c'est difficile d'aller recruter une partie ou l'autre, mais il y a quand même des attaches qui diffèrent. Donc, il y a certaines attaches qui vont aller plus au niveau vaginal du pubis vers le vagin, du pubis vers l'anus, le rectum, par exemple. Il va y en avoir d'autres qui vont aller plus en postérieur au niveau du plancher pelvien. Donc, il va y avoir un effet de continence au niveau autant urinaire, gaz, sel. Et là, ben, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir des fuites de gaz. C'est vraiment très vaste comme sujet. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier que tu voulais que j'aborde par rapport à ça.
Non, mais déjà là, tu nous éclaires un peu dans le sens que, tu sais, c'est ça, c'est que les muscles ont un rôle à jouer dans la continence, l'incontinence, donc c'est un peu ça, le même principe que quand ils sont plus, j'imagine, moins, je sais pas si le bon mot, ça serait contracté ou moins tonique.
Oui.
Il peut y avoir des échappements de gaz. Ça, c'est ma communicatrice qui essaie de vulgariser.
C'est excellent.
OK, c'est bon.
Et en fait, si je peux rajouter un élément,
oui, rajoute,
c'est vraiment important. Excellent, super. On fait ça. Donc, c'est super important que le plancher pelvien il soit fort, endurant, mais souple. Tout ça, à la fois, doivent et peuvent cohabiter. Des fois, ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, justement, le côté tonicité que tu as nommé, ça réfère plus à la tension dans le plancher pelvien. Un plancher pelvien peut être tendu ou plutôt souple et ce n'est pas nécessairement lié, ça peut l'être, mais en termes de force. Fait que c'est vraiment des composantes qui sont différentes. Je peux avoir un plancher pelvien qui est fort, qui est capable de bien venir se contracter pour créer une occlusion, que ça soit près de l'urètre pour éviter qu'il y ait de l'urine qui s'écoule. Ça peut être au niveau plus de l'anus. Il y a comme plein d'endroits où est-ce qu'il peut avoir des contractions puis assurer justement la continence. Mais en fait, c'est que si on a un plancher pelvien, par exemple, qui est tendu, ben, il ne sera peut-être pas disponible pour faire son travail. Donc, on réfère plutôt à la compétence périnéale ou pelvienne, qui veut dire en fait que notre musculature marche pour le mieux. Fait qu'elle est forte, endurante et souple, tout ça à la fois.
Wow, OK. Fait que j'ai vraiment l'image du bon sportif. Donc, ça fort, endurant, mais aussi souple. Tu sais, souvent en yoga, on voit ça, on voit des gens qui arrivent, sont hyper musclés, puis ils ont l'air vraiment en forme selon l'image qu'on en fait, mais ils sont pas souples. Donc, la santé optimale, elle est pas là non plus parce qu'ils sont à quelque part prisonniers de leur musculature trop imposante. Donc là, on peut voir un petit peu le parallèle peut-être avec ce que tu disais dans l'idée d'être trop contracté, d'être trop tendu, ce qui fait qu'on manque de souplesse, puis la santé générale. Fait que parfait. Voyons, là, je pars avec l'image de mon plancher pelvien. Je veux pas que ce soit un bodybuilder tendu. Faut qu'il soit... Mais pas être bodybuilder, mais il faut qu'il soit souple aussi. Fait que... Parfait. On a parlé des hommes. J'aimerais ça qu'on parle des femmes aussi, évidemment. Oui. Par rapport au... en fait, ma question, c'est quelles sont les problématiques qui peuvent survenir, qui surviennent le plus souvent chez les femmes par rapport au plancher pelvien?
Oui, il y en a plusieurs. Que ça soit, comme je disais un peu tantôt, avec les hommes, les fuites urinaires, gaz, sel, ça peut être des descentes d'organes aussi, il peut avoir des douleurs, que ça soit aux relations sexuelles et ou autres, parce que ça peut être au niveau du coccyx. Des fois aussi, il y a des maux de dos, des douleurs qu'on peut avoir, par exemple, qui sont liées avec une instabilité lombo-pelvienne. Donc, au niveau plus abdominal, qui travaille avec notre plancher pelvien et pour être impliqué. Fait que des fois, dans les cas de douleurs au dos chronique, ben, ça peut être en lien avec notre plancher pelvien. Là, on voit, j'échange des fois périnée, plancher pelvien, mais là, tout le monde a été éclairé là-dessus, fait qu'on est correct.
On a mis la table.
Dans les plus fréquentes, je dirais que, premièrement, parenthèse, c'est difficile d'avoir les vrais chiffres de chacun de ces symptômes-là ou de ces conditions-là parce que quand on fait des études par rapport à ces symptômes, ces conditions, premièrement, les définitions peuvent changer d'une étude à l'autre. Et ensuite de ça, on se rappelle que c'est un sujet très tabou, la santé pelvienne. Donc, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise d'écrire sur un papier d'étude, remplir quelque chose, puis de dire « oui, j'ai ça, ça, ça ». Donc, on estime pas mal tout le temps que c'est sous-évalué. Et aussi, moi, ça m'arrive souvent en rencontre que je vais demander aux gens, par exemple, « Ah, est-ce que vous présentez des fuites urinaires? » Et la personne me dit non, puis on continue de parler, puis elle me dit « Ah oui, de temps en temps, un petit jet, une petite goutte, mais tu sais, rien là. » Puis c'est là que c'est important de savoir que dans la définition des fuites urinaires, c'est à partir du moment qu'on a des fuites d'urine involontaires. Mm-hmm. Donc souvent, on ne veut pas se coller à cette définition-là parce que dans notre imaginaire, c'est comme si on voit quelqu'un en perte d'autonomie, plus âgé, comme, tu sais, ça frappe un peu l'imaginaire.
Ben oui, et on veut ça pas vient de dire l'incontinence, puis là, on a l'image des grosses couches de... Oui. De tu sais, ouais.
Oui, exactement. Donc, ce qu'on a en ce moment comme chiffre, c'est à peu près 50 % des femmes qui présenteraient des fuites urinaires. Mmh. On sous-estime probablement ce nombre-là. On peut pas savoir pour sûr, mais considérant tout ce que je viens de nommer, ben, on se dit que ça se pourrait bien qu'il y en ait plus que 50 % qui en ait. Mmh. Fait que c'est une affection qui est très, très présente. Fait que je dirais que c'est vraiment celle-là qui est le plus présente.
Par rapport aux symptômes, parce que là, tu parlais des fuites urinaires, j'ai eu la chance d'avoir, dans mon ancienne vie de marketing, une cliente, justement, qui faisait des sous-vêtements pour fuites urinaires. Donc, j'avais fait une grande, grande recherche là-dessus. Et c'est un domaine qui me fascine, justement, de voir à quel point il y a des tabous par rapport à ça. Il y a des choses qui sont mal comprises, des choses qui sont normalisées beaucoup. Donc, les fuites urinaires, il y en a différents types. Il y a, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, des différents types qu'il peut avoir, puis de comment ça peut se manifester, peut-être pour justement le sortir de la norme, tu sais.
Oui. Donc, il va y avoir différents types de fuites urinaires. Effectivement, d'abord, les fuites urinaires, ce que j'aime dire, c'est commun, mais c'est pas normal. Mm-hmm. C'est indicatif qu'il y a quelque chose, un déséquilibre qui est en présence au niveau de notre santé pelvienne ou ailleurs dans le corps, parce que notre corps, c'est vraiment une entité globale, que tout est interrelié.
Ah, et donc, une professionnelle de la santé qui nous dit ça. Allez.
Oui, toujours, mon Dieu, c'est tellement important. Wow. Mais oui, il faut vraiment pas rester, puis vraiment une parenthèse, là, mais le corps, c'est tout interrelié et plus que ça, mon Dieu, les gens qui se présentent en clinique, ben, ils ont toute leur réalité, hein, qu'est-ce qu'ils vivent dans le quotidien, c'est quoi leur stress actuel et tout ça. On est des êtres complexes, physiques, psychologiques, émotifs, etc. Donc, bref, pas juste le corps ensemble, mais tout le reste. Fait que maintenant, je reviens à mon histoire de fuite urinaire.
Non, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, la parenthèse que tu fais, parce que c'est vrai que dans le milieu qu'on connaît aujourd'hui, tu sais, j'ai écouté une série qui s'appelle... Ben, j'ai un blanc. Ça se passe dans un hôpital, New Amsterdam.
Oui.
Et là-dedans, je sais pas si tu connais...
Je l'écoute en ce moment, c'est pour ce moment.
Ah, OK. Bon, moi, je suis en amour avec Ryan Eagle, le personnage principal. Oui. Même si la série est super prenante pour moi, je suis pas tant dans mon milieu, mais pour lui, bon, OK. Parenthèse, fini pour ça. Mais là-dedans, il y a un médecin qui... Docteur Kapoor. Puis lui, il prend le temps de... Puis moi, je le trouve fascinant parce que ses patients, il prend le temps de leur demander comment ça va, comment ça se passe dans votre vie, la qualité de vos relations, qu'est-ce qui se passe. Puis ces rencontres avec ses patients durent souvent hyper longtemps parce qu'ils discutent avec eux pour comprendre vraiment la source. Puis c'est un docteur prodigieux. Bon, ça reste une série, mais quand même, le concept, on le comprend. Puis à un moment donné, il arrive même une autre médecin, tu sais, qui est comme la chef de palier, là, l'urgentologue en charge du palier, puis elle dit « Vous avez 10 minutes pour donner votre diagnostic, tu sais. » Puis lui, il est comme, il se fait mettre ce cadre-là, puis il n'est pas capable de fonctionner parce que pour lui, il va toujours voir un petit peu la globalité. Ouais. Puis en tout cas, cet épisode-là, puis là, avec ce que tu dis, moi, ça m'a beaucoup marqué, puis je dis « Wow, tellement! » Tu sais, des fois, ça serait, dans un monde idyllique, on aimerait se faire traiter avec une grande... ce côté-là qui est plus holistique, d'aller voir de la venir. Puis d'ailleurs,
oui.
Si jamais tu peux nous donner un exemple de si ça devient, là, je sais pas si ça peut être aussi instinctif ou pour toi, mais tu sais, de donner un exemple de, par exemple, pourquoi on pourrait avoir ça, mais qui n'est pas nécessairement relié à exactement cette zone-là du corps en particulier, tu sais, qui pourrait venir d'ailleurs. Fait que, voilà, fini de ma parenthèse, je te laisse la parole.
C'est bon. Donc, pour l'exemple que tu me demandais, des fois, ça peut venir d'ailleurs dans le sens que, par exemple, si la personne présente une assez bonne compétence pelvienne, fait qu'on dit elle a une bonne force, une bonne endurance, une belle souplesse de son plancher pelvien, c'est assez bon, là. Elle a une bonne coordination motrice, contrôle moteur, tout ça. OK, check, 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 mais il y a encore des symptômes. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a plein de choses qui peuvent être en cause, mais notamment, par exemple, peut-être que... il va y avoir de la raideur au niveau de la cage thoracique, au niveau du diaphragme. Ça pourrait créer des pressions continues vers le plancher pelvien qui, malgré le fait qu'il soit compétent, bien, il est tellement soumis à une charge par ce qui se passe en haut, par exemple, que là, il pourrait moins bien fonctionner parce que ça va quand même s'il est bon, au-delà de sa capacité. Puis ça, ça pourrait être ailleurs aussi, ça pourrait venir du bas du corps, mais c'est pour ça que c'est important de voir la personne avec vraiment, tu sais, dans sa globalité, pour aller voir qu'est-ce qui pourrait. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence peut-être un petit peu plus précis parce qu'on est les seuls qui allons voir au niveau du plancher pelvien avec ces lunettes-là, si on veut. Mais après, c'est vraiment de sortir de la zone pelvienne pour voir, OK, maintenant qu'on l'a, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Évidemment, s'il y a quelque chose de flagrant avant, ben on va peut-être aller voir ailleurs avant. Mais oui, donc hyper important de considérer. Fait que c'est juste un exemple parmi tant d'autres qui pourrait être.
C'est super intéressant. Donc là, même si je fais le lien, si c'est au niveau des difficultés respiratoires, ça peut peut-être même être une source qui est d'origine, par exemple, je pense au stress ou à l'anxiété, tu sais, qui souvent fait en sorte que, fait que ça peut venir de t'sais, dans, en tout cas, je trouve ça absolument fascinant. Merci d'avoir ouvert la porte là-dessus. Je nous ramène dans le chemin.
Oui.
Au début, les différents types de fuites urinaires, on était là. Fait que,
absolument. C'est bon. Puis, merci. Tu viens de parler, ça fait plaisir. Dans le fond, tu viens de parler du stress, mais c'est tellement important parce que même si on travaille beaucoup, par exemple, l'assouplissement en clinique, si la personne est tout le temps dans son intensité, dans son système nerveux autonome, sympathique, donc quand on est vraiment lutte-fuite, puis ça n'a pas besoin d'être aussi intense qu'on se le met dans notre tête, là. Il y a beaucoup de gens dans la société qui sont comme dans ce mode-là par défaut, quand il faudrait ramener un petit peu plus de parasympathique, avec le côté plus détente, se déposer, tout ça. Ça fait que ça revient quand même les tensions, où il y a des certaines mauvaises habitudes qui sont encore en présence. Fait que, bref, je referme la parenthèse, on revient au fait.
Je me contiens de ne pas rouvrir quelque chose. Là. Vas-y.
Je me doutais qu'on allait partir.
Il va falloir se réinviter, je pense.
C'est parfait, avec grand plaisir. Alors, fuite urinaire, on se ramène. Fuite urinaire. Donc, il peut y en avoir plusieurs types. Les principales, ça va être les fuites d'urine à l'effort et d'urgence. Il y en a plein d'autres. Ça peut être des fois en lien avec justement la perte d'autonomie des gens, un côté neurologique. Mais les plus communes, c'est vraiment à l'effort et d'urgence. Puis si je fais un petit topo de chacun de ces types-là, au niveau de l'effort, c'est les fuites qui vont avoir lieu dans un contexte où est-ce qu'on va justement créer un effort, c'est-à-dire tousser, éternuer, soulever une charge. Des fois, ça peut être juste se lever. On est assis, on se lève et là, il y a une fuite qui a lieu. Donc, c'est dans un contexte comme ça. Et sinon, il va y avoir le...
Quand on rit aussi.
Oui, quand on rit, effectivement.
C'est pas normal de pisser dans ses culottes.
Exactement.
Pourtant, c'est tellement normalisé, ça.
T'sais? Oui, je sais. Puis on a vu tellement
de pression, tu sais, ici. Arrête de me faire rire, je vais pisser dans mes culottes, tu sais.
Oui, comme... je sais. Je sais. Et non. Et pourtant, non. Puis on devrait pas non plus se pencher, fermer les jambes, tout ça. T'sais, on a comme plein de compensations qu'on fait pour éviter les fuites. Dans le fond,
donc,
on a
ça non plus.
Oui.
C'est pas, ça devrait pas, là. Tu peux pas dire, non, j'ai pas de fuite urinaire. Non, mais je le sens quand j'éternue. Si je coince mes jambes, c'est correct.
Oui, exactement. C'est ça. Parce que ça crée une occlusion, une fermeture mécanique qui vient aider, supporter peut-être que le plancher pelvien ne peut pas faire. Fait que ça, c'est un indice que ça vaut la peine d'aller consulter en physio-périnéale. On a ce côté-là, côté effort, et ensuite le côté urgence, que ça, c'est plus associé à, on entend de l'eau couler, on a les pieds froids, on va arriver, on met la clé dans la porte, puis là, oh, faut y aller vite, vite, vite. Fait qu'il y a vraiment la notion d'urgence associée à ça. C'est comme si tout d'un coup, ça devient vraiment grand comme envie. Et là, nos différentes informations au niveau de notre vessie, c'est comme si ça prend vraiment de l'ampleur, puis c'est maintenant. Et des fois, c'est qu'on n'arrive pas nécessairement à se rendre, justement.
Ouais. Souvent, on entend que c'est très commun, après avoir eu des grossesses, par exemple, une ou des grossesses. Est-ce que ça peut se présenter aussi pour des femmes qui n'ont pas eu d'enfants?
Oui, absolument. C'est pas un gage de santé pelvienne que de ne pas avoir eu de grossesse ou de ne pas avoir accouché d'ailleurs. Par césarienne, ça ne veut pas dire que notre plancher pelvien est numéro un. Fait que je glisse ça comme ça. Mais non, c'est dans le fond, ce qui va arriver, c'est comme un peu tout dans la santé. Dans le sens qu'on va avoir différents facteurs de risque. Puis à un moment donné, c'est comme si on remplit notre verre ou notre coupe avec de l'eau tranquillement. Puis là, les facteurs de risque, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Puis à un moment donné, ça finit par déborder. Puis notre corps, il arrivait à rester en équilibre apparent. Et à un moment donné, on rajoute un facteur de risque supplémentaire, puis là, il y a des choses qui apparaissent, qui voient le jour, si on veut, mais c'était déjà en travail, si on veut, c'était déjà en présence, c'est juste n'était pas visible en termes de symptômes. Fait que ce qui arrive, c'est que ben la grossesse, l'accouchement, ce sont des facteurs de risque assez importants parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du corps en termes de changement, de pression, aussi de changement au niveau hormonal. Donc, ça arrive souvent dans ces moments-là, mais pas que. Des fois, il y a des gens qui vont avoir 16, 18 ans, qui vont venir parce qu'ils ont des futurs mères. Il y a des enfants passés l'âge de la propreté aussi qui peuvent présenter des futurs mères. Des fois, ça va être des personnes plus âgées qui vont pas nécessairement avoir eu d'enfants. Donc, c'est vraiment ces déséquilibres-là, mon Dieu, on va y arriver.
on a compris. Ça peut avoir plusieurs, facteurs de risque qui peuvent influencer ça.
Oui.
Wow. J'aimerais qu'on parle aussi de descente d'organes. Mm-hmm. Est-ce que c'est lié avec, tu sais, qu'on remette les choses dans leur case un petit peu à ce niveau-là, là, parce que là, fuite urinaire, descente d'organes, souvent on fait des associations. Est-ce que l'un est vraiment lié à l'autre ou ça, tu sais, qu'est-ce que c'est finalement la descente d'organes, puis comment ça se présente, les symptômes et tout ça?
Donc, quand on parle de... Oui. Premièrement, il ne faut pas que les gens qui écoutent le podcast aillent écrire sur Google « descente d'organes », OK? Mauvaise idée, on voit toujours le pire. Alors, je vous explique... Vous êtes sur Google, arrêtez. Tout de suite. Alors... Je vais expliquer c'est quoi démystifier la chose et je pense que ça va parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des inquiétudes par rapport à ça. C'est à considérer, c'est important, mais souvent, il y a des gens qui s'en font plus, je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire par ça, qu'ils devraient. Donc, la descente d'organes, c'est dans notre corps, dans notre bassin, il va avoir différents organes. On va avoir notre vessie, notre utérus, notre rectum et aussi un petit peu plus haut, on va avoir nos intestins qui eux aussi peuvent descendre par rapport à leur position d'origine, mais c'est beaucoup plus rare parce qu'ils sont plus hauts. Fait que nécessairement, ça demande plus. Mais souvent, quand on parle de descente d'organes, les gens, on parle de ces trois organes-là. On parle pas juste de vessie, même si on en entend plus parler. Et c'est de dire où est-ce que l'organe est rendu positionné par rapport à où est-ce qu'il devrait. Donc, il y a 4 grades. Et on va prendre avec l'utérus pour que ça soit un peu plus simple. Fait qu'on s'imagine, par exemple, si on est debout, il va y avoir notre entrée vaginale et il va y avoir le col utérin, le col de l'utérus qui va être beaucoup plus haut. Il est pas tout de suite accessible. Il y a quand même une bonne hauteur avant qu'on puisse y accéder. Par exemple, quand on fait un pap test ou quelque chose comme ça, on a besoin d'aller un petit peu plus profondément. Et là, le grade 1, ça serait que le col de l'utérus va venir descendre jusqu'à la demi-vaginale. Ça va être à l'intérieur de cette première demi-là. Le grade 2, ça serait que ça parcourt la deuxième demi-vaginale en termes de longueur. Troisième grade, ça serait que ça vient créer un petit bombement à l'entrée vaginale. Ça fait juste dépasser feu hymen. Et ensuite de ça, il peut y avoir un grade 4 qui, là, c'est l'organe qui peut sortir au complet. Fait qu'on voit que là-dedans, il y a vraiment différents degrés, il y a vraiment une gradation. Fait que de dire « j'ai une descente d'organe », ben ça se peut que ta vessie ou ton utérus, ton rectum, soit descendu d'un millimètre ou deux. Là, on s'entend, là, j'exagère, là, d'habitude, quand on le considère, c'est que ça bougeait un peu plus. Mais ça veut pas dire qu'on est collé, que notre réalité, c'est qu'est-ce qu'on aurait comme visuel si on cherchait sur Google, mettons. C'est pour ça que je disais ça tantôt. OK.
Fait qu'il faut se détacher de ça. Puis là, oui. Comme par exemple, pour une physiothérapeute comme toi, tu arrives à le sentir, mais pour le commun des mortels, comment mm-hmm. ça, est-ce qu'on le ressent d'une certaine façon dans le corps?
Oui, c'est, en fait, c'est délicat parce que souvent, le symptôme qu'on va associer à ça, la sensation, c'est la lourdeur périnéale. Mais là, la lourdeur périnéale, elle peut être ressentie par les gens de différentes façons. Ça peut être une pression dans le bas du ventre. Ça peut être une pression en arrière au niveau du sacrum. Ça peut être une impression que tout est tiré vers le bas en interne, comme si ça voulait sortir à l'extérieur. Ça peut être encore plus bas au niveau du périnée. Fait qu'encore là, lourdeur périnéale, ben, tout le monde le vit un peu différemment. Maintenant, la lourdeur périnéale, souvent, ça va vouloir dire, ben, en fait, je vais dire mon contre-exemple après, on va finir celui-là. Donc, lourdeur périnéale, si on en ressent, c'est qu'on a été un peu trop loin par rapport à notre capacité à ce moment-là, à notre condition à ce moment-là. Si on ne présente pas de lourdeur périnéale, malheureusement, ça serait le fun que l'inverse soit vrai. C'est pas que tout est correct nécessairement. Okay. Fait que c'est ça qui est délicat un peu parce qu'on peut le savoir si on a de la lourdeur, hein, mais pas nécessairement l'inverse. Et la lourdeur périnéale, il y en a qui sont vraiment plus sensibles à ça, qui peuvent avoir des grades beaucoup plus petits. Fait que des fois, il y a des gens qui sont comme « Hey, ça attire, ça pousse, je sens beaucoup de choses », puis ils ont un grade 1. Puis il y en a d'autres qui ne sentent pas du tout, puis qui sont comme « J'ai quelque chose qui me sort entre les jambes, puis je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y en est ». Fait que là, c'est un grade plus avancé. Fait que malheureusement, ce n'est pas tout le temps corrélé. Et aussi, des fois, il y a des gens qui ont l'impression de ressentir la lourdeur périnéale, mais en fait, c'est le fait que leur plancher pelvien est très hypertonique. Donc, c'est comme si le tonus y est augmenté, puis des fois, c'est comme s'il est tellement fatigué que ça donne la sensation que c'est une lourdeur. Fait que c'est pour ça que c'est délicat. Tu sais, j'essaie d'outiller le plus possible les gens puis de leur donner des trucs concrets, ouais. Mais la vérité,
non, mais
c'est
tu mets, oui, tu t'ouvres des lumières un petit peu juste pour conscientiser, tu sais, amener à la conscience que tout ça, ça peut arriver. Puis moi, j'adore ça, avoir un petit peu toutes ces nuances-là. Plutôt que de dire, il se passe ça, ça doit être ça, puis c'est comme dans une case noire ou blanche. Puis là, on est un peu apeuré, tu sais. Si on est moindrement hypochondriaque aussi, on va aller... On peut aller loin si on n'était pas déjà sur Google. Mais merci vraiment beaucoup pour toutes ces précisions-là. Moi, ça me fait penser, des fois, quand je m'entraîne, mais je ne sais pas si c'est psychologique. C'est pour ça qu'en te parlant, on dirait que on raccroche puis je prends un rendez-vous tout de suite. tu sais, des fois, j'ai l'impression, puis je ne sais pas si c'est psychologique, que j'ai une lourdeur. Fait qu'on dirait que je fais comme, oh, je vais aller aux toilettes. Mais tu sais, il n'est pas arrivé d'incident. Mais on dirait que je me dis, peut-être encore une fois, parce que c'est tellement normalisé que je me dis, oh, là, il va se passer ça, c'est sûr, c'est normal, j'ai accouché deux fois, tu sais. Puis, fait que c'est vraiment là que moi, je ressens mes... fait que, tu sais, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. On dirait que tu m'apaises là-dedans de faire comme, OK, tu sais, on va juste aller voir. Puis justement, ça peut être tellement de choses. Ça peut être psychologique, mon affaire, tu sais. Souvent, il y a des affaires, c'est ça, parce que... Puis, attends, c'était quoi l'autre chose que je voulais te parler? Par rapport aux mesures, en fait, à prendre, tu sais, là, tu disais, il y a degrés.
Oui.
On fait quoi? Est-ce que c'est la même, le même rééducation? Ou à un moment donné, tu sais, on parlait aussi, on entend beaucoup parler de chirurgie. Comment ça... C'est ça. Comment on règle ça, finalement?
C'est bon. On va se parler du continuum de gestion des descentes d'organes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis tu as nommé des choses hyper intéressantes avant. Fait que si tu me permets, j'aimerais ça revenir sur certains points. Donc, oui, des fois, on est en hypervigilance au niveau de notre zone pelvienne parce que, puis c'est facile, hein, vu que c'est comme une zone qu'on n'est pas trop en contact, qu'on comprend pas trop, qu'on parle pas beaucoup, ben ça peut des fois faire ça. Donc, des fois, effectivement, on est très concentré là, puis on est tellement en hypervigilance que c'est comme si on ressent tout plein d'affaires, mais des fois, c'est effectivement qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire un check-up, juste pour avoir une idée. Tu sais, moi, je trouve que c'est comme si c'est vraiment... tout le monde fait d'emblée des examens gynécaux, tout ça, c'est comme, tu sais, c'est normalisé, mais de voir qu'est-ce qu'il y en a avec sa santé pelvienne, sa condition pelvienne, ben ça, c'est pas vraiment normalisé et pourtant, ça servirait tellement autant à la femme de reconnecter avec elle-même, avec cette zone-là de son corps, mais aussi de prévenir beaucoup de choses. Donc, que ça soit des fuites, des descentes, etc.
Puis, tu me permets de m'immiscer ici juste pour dire, parce qu'on en a parlé avant l'entrevue à micro fermé, mais le fait que... Tu sais, le fameux rendez-vous post-grossesse chez le médecin qui, après, quelques semaines après ou des fois quelques jours après, t'examine, puis là, il dit « OK, c'est beau, tu peux reprendre les activités. » Ça constitue pas une vraie évaluation du plancher pelvien, là.
C'est ça. C'est qu'ils vont regarder comment la guérison a lieu. Mais après ça, c'est pas parce que les tissus sont guéris post-accouchement, après, en général, 6 à 8 semaines, qu'on a nécessairement une compétence pelvienne et abdominale. Fait que c'est là qui est important de vraiment valider si c'est le cas ou pas, puis de trouver des outils par rapport à ça. Donc, c'est comme si chacun a son champ d'expertise. Puis pour ce qui est du retour aux activités physiques, ben c'est vraiment en physio qu'on regarde ça, effectivement, parce que des fois, j'ai froid dans le dos quand j'ai des patientes qui me disent 6 semaines post-natal, mon médecin m'a dit vas-y, retourne courir. Puis je suis comme ouh!
Ah non!
Non, 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 non!
Ah. OK, ouais. Selon toi, on devrait attendre combien de temps? C'est-tu en.
Ça dépend de chacune.
Okay. De l'évaluation que... plus parfaite.
Oui. Oui, parce que s'il y a une super compétence de plancher pelvien, que ça va bien au niveau du corps, ben on n'est pas à la même place. T'sais, des fois, ça peut prendre plusieurs mois. Des fois, c'est plus rapide. Mais il faut vraiment se rappeler que le 6 à 8 semaines post-natal, c'est vraiment la guérison générale des tissus. Ça veut pas dire qu'on... Puis d'ailleurs, 6-8 semaines après avoir accouché, là, je trouve qu'il y a même des gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont comme « Ah, je serais pas partie à courir. » Parce qu'on est tellement en adaptation. Exactement. Notre corps, il a besoin de temps. Il a pris tout le temps de la grossesse. Il a fait tout ce marathon-là. Puis à la fin, il a fait un gros sprint. Il n'est pas à reprendre. T'sais, il faut laisser le temps à la nature, au corps.
Comme les loups. Quand la maman loup, là, à la couche de ses bébés, elle a sa tanière, celle qui l'a trouvée, elle l'a aménagée. Puis à partir du moment où elle a donné naissance, c'est comme les autres, pendant un mois et demi, là, ils vont chasser puis ils ramènent la bouffe. Elle a fait rien. Excellent. Elle s'occupe juste de ses enfants. Puis elle sort prendre l'air 2 secondes, mais c'est pour prendre l'air, tu sais, c'est pas pour s'occuper de personne, c'est pour elle, puis elle rentre sur sa tanière, puis voilà.
On devrait plus se coller à cette mentalité-là, ouais.
Soyez des loups, les amis.
Exactement.
Oui. OK, j'arrête de faire des parenthèses. T'as utilisé le mot continuum, c'est super beau. Vas-y.
Alors, pour les descentes d'organes, ben d'ailleurs, tu sais, tantôt tu disais, fuite urinaire, descente d'organes, c'est-tu la même affaire? On les colle souvent, mais c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est la position de l'organe, puis il y en a un autre que c'est vraiment lié à la compétence pelvienne, comment ça se passe au niveau, justement, de notre plancher pelvien, notre périnée. Fait que ça, c'est, en tout cas, bref, je ferme la parenthèse ici, sinon on n'arrêtera pas. Alors... Au niveau des descentes, il va y avoir un continuum. La première partie, c'est un traitement qui est plus conservateur, qu'on appelle, donc pas invasif. Ça va être là que la physio-périnéale, elle est vraiment présente. Parce que c'est important de voir comment le corps va. Est-ce qu'il y a une compétence? Est-ce qu'il y a un équilibre au niveau du corps? Sinon, de le ramener. Et des fois, ça peut être des exercices, des fois, ça peut être de la thérapie manuelle. Et surtout, des conseils sur les habitudes de vie. Fait que c'est important de s'assurer, par exemple, d'avoir une bonne posture pour que la pression soit exercée de manière égale, si on veut, sur les organes. Ils sont habitués d'avoir une pression égale. Souvent, on est en fermeture, on a les épaules enroulées, on met beaucoup de pression sur notre vessie. Fait que là, sûrement que tout le monde vient de se redresser, qui nous écoutait, c'est parfait. Mais paniquez pas si vous vous enroulez dans quelques minutes en nous écoutant. Fait que ça, c'est un facteur qui peut avoir un impact. Si on a de la constipation chronique, on est tout le temps en train de pousser sur nos organes. Si on ne fait pas ce qu'on appelle le verrouillage périnéal, quand on fait un effort, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est. Dans le fond, ça aussi, c'est une façon de venir protéger. Fait que par exemple, si je vais tousser, je vais vouloir contracter mon plancher pelvien et mon transverse, qui est mon muscle abdominal le plus profond quand je rentre mon nombril vers la colonne, pour venir supporter mes organes autour de l'effort. Fait quelques secondes avant, pendant, puis quelques secondes après. Fait que ça, c'est aussi je soulève une charge lourde ou des choses comme ça. Fait qu'un grand effort, je vais vouloir vraiment venir supporter mon corps et ramener en présence ces muscles stabilisateurs et de soutien. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut faire.
C'est un yogi, ça, c'est Muladhara.
Oui.
Parfait.
Oui, exactement.
C'est bon.
Moulabandha et l'autre, je l'oublie tout le temps comment le dire, là. Mais
c'est,
on se comprend.
Udiana Banda.
Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que je suis tellement... Moi, j'ai tellement le cerveau. J'ai le côté yoga, mais c'est quand même...
Ben non, mais t'as deux termes de physio. Mais c'était juste pour aller voir. Tu sais, parce que toi, c'est intéressant. Oui. Tu fais les deux. T'es professeur de yoga.
Oui.
C'est ça. Fait que tu peux... c'est d'aller voir, OK, est-ce que c'est la même chose?
Oui, puis je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait quelque chose qui existe depuis si longtemps apportait déjà ces concepts-là qui sont hyper importants. Fait que moi, j'adore ça. Il y a vraiment quelque chose qui se lit ici, puis que, tu sais, ça veut pas dire que parce que quelque chose existe depuis longtemps, c'est nécessairement bon, mais ça, c'est bon.
Puis nous, on t'aime d'amener toutes ces nuances-là.
Et donc, ça, c'est vraiment la partie plus conservatrice, donc physio-périnéale, les habitudes de vie, la compétence du plancher pelvien, l'équilibre du corps et tout ça. Ensuite de ça, mais ça reste lié, on va avoir la partie pesaire. Donc, si c'est pas assez, le pesaire, c'est quelque chose qu'on va insérer en intravaginal qui peut avoir différentes formes. Des fois, c'est des anneaux le plus souvent. Des fois, ça peut être des cubes, différentes formes qui agit comme soutien ou agent de remplissage en intravaginal. Un petit peu comme si on insérait une DivaCup, par exemple.
Mm-hmm.
C'est pas pour ça que c'est fait, mais juste pour donner une idée aux gens de quoi ça pourrait avoir l'air, ça pourrait s'apparenter à ça. Et ça, ça vient soutenir au niveau des organes. Et la seule chose, c'est que si on insère quelque chose comme ça en intravaginal, ben il faut s'assurer que ça soit pas juste un plaster hein, sur le bobo. Fait qu'il faut s'assurer que la première étape, elle a bien été faite pour s'assurer des bonnes habitudes de vie et tout ça. Des fois, c'est nécessaire d'aller vers le pesaire. Des fois, pas. Avec la partie plus conservatrice, ben, on est capable de bien soutenir la personne puis qu'elle ait plus ses symptômes et tout ça.
Ça, c'est quelque chose qu'on porte en tout temps. Après?
Ça dépend des gens. Des fois, les gens vont le porter, par exemple, à l'activité physique intense. Ils veulent faire un entraînement un peu plus challengeant, disons.
Okay.
Ça peut être porté juste là. Il y en a qui vont le porter de façon permanente. Ben, permanente. Il faut le retirer de temps en temps quand même pour s'assurer de l'intégrité du pesaire, s'assurer qu'on laisse un repos, si on veut, à notre corps aussi, le nettoyer, tout ça, mais ça, c'est plus du cas par cas, qu'est-ce qui est nécessaire pour la personne, mais oui, ça pourrait être porté plus longtemps ou plus ponctuellement. Et ensuite de ça, on va avoir la partie chirurgie, qui souvent, c'est vrai qu'on se dit descente d'organes égale chirurgie, ça y est.
Oui, c'est... 1 + 1 = 2.
Oui, oui. Puis c'est pour ça que je disais tantôt, que c'est important de considérer les descentes d'organes, mais disons en postnatal, c'est normal que si tu es un mois, deux mois en postnatal, les organes aient bougé un peu. Fait que ça va se résorber, on va prendre les bonnes habitudes et tout ça. Fait que c'est juste de pas tout de suite avec, par exemple, une impression clinique qu'on va donner de descente d'organes, ou si on reçoit un diagnostic médical ou quelque chose comme ça, de pas tout de suite paniquer avec ça. Il y a des choses à faire, c'est important de le considérer, mais c'est plus pour défaire cette association-là de « j'ai une descente d'organes, ça y est, demain matin, j'ai ma chirurgie ». On sort de ces concepts-là, puis c'est justement intéressant qu'on puisse en parler parce que ça va démystifier ça. Fait que les descentes d'organes, les chirurgies pour les descentes d'organes, il y en a de plusieurs types, mais c'est sûr que c'est plus invasif. Hein? Il y a quand même, c'est une chirurgie. Fait qu'il y a toujours certains risques qui sont associés. Sinon, il faut quand même avoir fait le travail au début du continuum parce que même si on a une chirurgie, par exemple, et d'ailleurs, ils font pas tout le temps les chirurgies, il faut vraiment que ça soit un grade avancé, que ça affecte la qualité de vie de la personne, puis que la famille soit terminée aussi. Fait que, tu sais, il y a comme plusieurs critères aussi. Mais bref, si on a une chirurgie, mais qu'on a encore, par exemple, de la constipation chronique, bien, on continue de venir pousser sur toutes les structures qui sont en présence au niveau de nos organes et tout ça, au niveau des attaches. Fait qu'il faut quand même revenir à la base dans tous les cas.
Merci beaucoup pour ces petites lumières sur ces grands sujets-là. Merci. Et c'est large, hein? J'ai tellement de choses que il y en a un gros, là, il y en a un gros dont il faut parler, parce qu'on l'a mentionné un petit peu. Puis des fois, je trouve que ça va vite un peu dans certaines entrevues que j'écoute. Les fameux exercices de Kegel. De Kegel. Moi, je dis Kegel. Je suis très international. Est-ce que tu peux nous décrire c'est quoi l'exercice de Kegel? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Comment ça marche? Est-ce que tout le monde devrait les faire? À quelle fréquence? Donc, j'ai vraiment le goût, si tu veux, bien sûr, nous ouvrir un petit peu les yeux sur tout ça. Donc, c'est quoi? On le fait quand? C'est-tu pour tout le monde? Voilà.
Parfait, excellent. C'est hyper important comme sujet parce que c'est vrai, tu sais, tantôt tu parlais un peu de désinformation ou qu'il y a des informations qui sont accessibles, mais des fois à la source, on ne sait pas trop. Il y a des gens très bien intentionnés aussi qui vont donner certains conseils, des fois qui sortent de leur champ d'expertise pour aider justement les gens à reprendre leur pouvoir. Puis je trouve ça super, l'intention qui est derrière. Toutefois, c'est pas pour tout le monde les exercices de Kegel, effectivement. Puis quand on parle des exercices de Kegel, c'est les contractions, les fameuses contractions du plancher pelvien. Puis il y en a de plein de sortes, il y en a qu'on peut faire des rapides qu'on contracte, qu'on relâche, des fois on va maintenir à 100% pendant une certaine période, des fois on va y aller plus en endurance, moins fort, plus longtemps. Bref, il y a plein de façons d'entraîner son plancher pelvien. Et effectivement, c'est pas nécessairement adapté à tout le monde. Des fois, ce qu'on a le plus besoin, ben, premièrement, pas tout le monde contracte bien son plancher pelvien. Fait que déjà, si on se fait dire de contracte ton plancher pelvien ou qu'on voit ça sur Instagram passer ou peu importe, donc on se fait dire ça par un professionnel de la santé en dehors de la physio-périnéale, ben, on va essayer du mieux qu'on peut de contracter notre plancher pelvien. Mais ça veut pas dire que ça sera bien fait. Fait que déjà, il y a des gens qui pensent contracter, mais qui poussent. Fait que là, on comprend que si moi, je pense m'aider au niveau de mon plancher pelvien puis je fais des Kegels, mais je pousse tout le temps, ben je suis pas en train de m'aider. Je suis en train de pousser au niveau de mes organes, notamment. Puis sinon, il y a beaucoup de gens qui viennent compenser avec des muscles autour. Fait que la contraction du plancher pelvien, elle devrait être uniquement au niveau du plancher pelvien. Souvent, il y a plein de cues qu'on peut donner, là, en fait, mais ça peut être de retenir les gaz, les urines. Fait qu'on veut une contraction au niveau vaginal, au niveau anal. Là, en passant, j'en parle pour la femme, on pourra peut-être faire le pendant pour l'homme après. Mais c'est ça. Donc, pour la contraction du plancher pelvien, il ne faut pas qu'il y ait nos adducteurs, donc les muscles intérieurs des cuisses, il ne faut pas qu'il y ait nos fessiers non plus qui embarquent. Souvent, on vient comme squeezer les fesses. C'est hyper important que ces muscles-là n'embarquent pas parce que, disons que je pratique mon plancher pelvien, puis là, moi, je m'y fie parce que je vais soulever quelque chose de lourd ou peu importe. Fait que je vais soulever quelque chose de lourd. Et là, moi, je suis toujours habituée de contracter mon plancher pelvien avec mes fessiers. Mais là, je suis en train de marcher. Mes fessiers, eux, ils font l'extension des hanches. Ils ramènent ta jambe vers l'arrière. Là, mon plancher pelvien, fort probablement qu'il ne comprendra plus comment se contracter. Mmh. Fait qu'on revient vraiment là au niveau du plancher pelvien du périnée. Quand on parle de contraction, c'est que ça. Ensuite, tantôt, je disais, il y a ça, la notion
avec
de...
la culture, excuse-moi, mais avec la culture de... Voyons, là, des squats, puis de booty workout, puis de qu'on entend partout depuis quelques années, là, c'est devenu tellement difficile. Puis quand j'ai fait ma formation de yoga aussi, la prof rappelait souvent, décontractez vos fesses, parce qu'on a comme lié, puis là, maintenant, les fesses sont contractées comme en tout temps, mais c'est pas nécessaire, puis ça fait en sorte que justement, on vient compenser avec les mauvais muscles, puis je trouve ça absolument génial que tu en parles dans le contexte des exercices pelviens. Tu sais, les fesses, vous n'avez pas rapport là. OK, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais...
C'est parfait.
Ouais, ça peut amener des petites lumières aussi de faire comme, mais dans la vie quotidienne aussi, voyons, mes fesses sont tout le temps contractées, mais c'est pas ça qui vous apporte des belles fesses de un, puis c'est plus de la fatigue puis de la compensation.
Exactement. Puis des fois, en séance, on travaille ça avec mes patientes, justement, de dire, observe dans le quotidien, et c'est un très bon exercice, fais juste observer quand tu contractes tes fessiers. Puis souvent, on réalise, mon Dieu, je suis tout le temps contractée, mais j'ai pas besoin de faire ça. Ouais. Fait que c'est comme de désapprendre ça, ça prend un certain temps. Fait que c'est un beau défi pour les gens qui seront intéressés à le relever. Mais oui, effectivement. Donc, au niveau des exercices de plancher pelvien, premièrement, avant que j'oublie, c'est hyper important de ne pas les faire pendant qu'on urine. C'est souvent un conseil qui est donné et il faut vraiment pas. Non. On veut vraiment s'assurer, ça met à risque d'infection urinaire, entre autres, de plein d'autres choses. Mais bref, c'est vraiment pas quelque chose qui est bon de faire. Des fois, les gens peuvent tester vraiment comme une fois à titre de test, juste voir si tu as la bonne zone que je recrute. Mais sinon, vraiment, là, c'est même déconseillé, en fait, de faire ça. Fait que sinon, tantôt, je disais, il y a la force, l'endurance et la souplesse au niveau de notre plancher pelvien. Il y a des fois des gens qui font tellement de contractions en voulant s'aider ça peut être pour d'autres raisons que leur plancher pelvien est hypertonique, il y a plus de tension qu'il devrait. Mais pour ces gens-là, peut-être que ce n'est pas ça qui est l'idéal, ou peut-être pas avec ce volume d'exercice-là, mais peut-être qu'on devrait aller plus vers un relâchement actif, de l'assouplissement au niveau des tissus, des exercices de respiration, juste pour ramener un petit peu plus cette souplesse-là. Des fois, c'est ça qui arrive. Il y a des gens que je leur dis, OK, là, on arrête. On arrête les exercices de Kegel. Peut-être qu'on va les reprendre plus tard. Peut-être que la raison pour laquelle ton plancher pelvien est tendu, c'est peut-être parce qu'il y a une certaine faiblesse sous-jacente. Mais il faut choisir nos batailles. Fait que, de garder ça en tête, c'est vraiment pas la solution à tout. Des fois, on veut aller dans l'autre côté.
Ouais. Est-ce que quelqu'un qui a un plancher pelvien hyper tendu peut avoir des fuites urinaires?
Oui, effectivement. Okay. C'est comme l'image que je vais donner, là, juste pour réussir à se le visualiser. C'est comme si notre plancher pelvien, pour assurer la continence, il va devoir se contracter. Fait qu'il se resserre, il s'élève, puis il s'avance un petit peu. Si notre plancher pelvien, il est hyper tonique, il y a de la tension à l'intérieur, c'est comme s'il est tout le temps contracté à, je vais dire un chiffre dans les airs de même, mais mettons 80%. Fait qu'il est comme pris là-dedans dans sa contraction, comme pris dans un pain. Fait que là, quand j'en ai besoin pour assurer ma continence, ben il me reste peut-être juste le 20% où il est peut-être un peu pris dans cette tension-là. Fait que c'est juste une image pour visualiser, là. Mais c'est ça. Fait que oui, des fois, d'assouplir le périnée peut limiter les fuites. Fait que ça paraît très contre-intuitif, mais c'est pour ça qu'il faut sortir du paradigme de c'est juste les exercices de Kegel ce qu'il faut faire.
Ouais. Wow! Hey, merci! Est-ce qu'il y avait d'autres choses là-dessus que tu voulais...
Je pense que ça va. J'essaie de voir si... puis peut-être parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question. J'ai beaucoup utilisé le terme hypertonique, mais c'est juste, dans le fond, il y a comme un continuum, il y a comme une échelle au niveau du tonus vaginal et idéalement, on serait au centre. Des fois, on est dans l'hypotonie, fait que c'est un côté où est-ce qu'il va manquer de tonus et de l'autre côté, l'hypertonie, que là, il y a un peu trop, en fait, de tonus qu'on veut venir réguler, on veut ramener ça au centre, normaliser au niveau du tonus. Fait que c'est juste pour donner un petit peu un contexte.
Merci. Il y a des bidules qui se vendent en ligne pour calculer la pression, oui. Justement, ou la force du plancher pelvien, ou là, je ne sais pas comment ils marketent ça, mais pour toi, c'est un oui ou c'est un non?
Bon, ma réponse va être un peu plus longue que oui ou non. En fait, ce que je trouve vraiment beau par rapport à tout ce qui existe comme gadget, justement, comme tu disais, c'est le souci chez la femme, notamment, d'un peu plus connaître cette zone-là, de reprendre son pouvoir par rapport à ça et de favoriser sa santé pelvienne. Donc ça, je trouve ça super beau, l'espace d'où est-ce que ça vient. Après ça, il faut quand même faire attention parce que, notamment, ce que tu nommes, de dire c'est quoi la pression au niveau vaginal, ce qui arrive, c'est que, premièrement, il y a différents objets, différents gadgets qui se vendent. Il y en a certains que c'est un biofeedback, donc c'est pour avoir une rétroaction. Il y en a d'autres qui envoient certaines ondes, fait qu'on ne parlera pas de ça, ça c'est autre. De toute façon, ça n'a pas été, les études sont vraiment pas favorables à l'égard de ça. Mettons pour le biofeedback, fait que ce qui regarde la pression que tu peux générer, en fait, ça va être comme un... comment je dirais ça? Comme une espèce de baromètre ou un thermomètre, disons. Fait que ça va identifier, comme un thermomètre identifierait la température qu'il fait dans la pièce, ça ne va pas la changer. Mais le bidule en question, le biofeedback, va donner l'information de la pression qui peut être générée dans cette zone-là. Ensuite, des fois, on en utilise en séance des machines comme ça, puis il en existe aussi qu'on peut acheter pour la maison. Fait que par rapport à ça, ce qui arrive, c'est que ça a été mis en évidence que c'était favorable d'utiliser ces machines-là par rapport à l'information tactile qu'on peut aller chercher avec l'examen, avec les doigts, par exemple, et nous donner de la rétroaction à la personne. Le biofeedback, le point négatif, c'est que ça va enregistrer la pression qui se trouve dans toute la zone. Fait que ça se peut que ça donne un super gros chiffre sur ma machine, mais c'est peut-être parce que je suis en train de compenser puis de contracter des muscles satellites, donc des muscles autour. Fait que c'est pas mon plancher pelvien qui travaille. Mm-hmm. Fait qu'il y a ce côté-là qui est moins positif, disons, parce qu'au final, on travaille pas la bonne chose. Fait que c'est juste de garder en tête c'est quoi les plus, les moins de chaque affaire? Parce que ça permet de se reconcentrer sur notre zone pelvienne, ça permet d'avoir un visuel aussi. Il y a des gens qui sont visuels, que ça aide plus que de dire, mettons, que le physio dise « voici ta cote de force est telle ». Donc, c'est ça. Il y a des plus, des moins. Puis sinon, des fois, c'est bien de savoir c'est quoi la pression qu'on peut exercer, mais... À savoir, on veut aussi s'assurer de relâcher complètement. Fait que de garder ça en tête pour si on utilise une certaine machine. Et qu'est-ce que j'avais envie de partager avec ça? C'est ça, qu'il y a quand même le côté que ça nous permet de faire attention à notre santé, mais c'est pas tout. Puis des fois, ça donne pas la bonne information. Fait qu'en gros, c'est pas... comment je dirais ça? C'est comme si... Des fois, on achète des choses là, à la télé puis ça promet certaines affaires, mais c'est pas nécessairement ça le résultat qu'on va avoir parce que peut-être qu'on n'a pas besoin de renforcer notre plancher pelvien, peut-être qu'on le fait pas bien. Fait que dans tous les cas, moi, c'est sûr que je suis fervente de redonner le pouvoir à la personne, redonner l'autonomie, mais de peut-être faciliter ce ressenti-là, ce contact-là. Puis au final, ce qu'on veut, c'est que la personne, elle ait plus besoin de nous. Par exemple, si elle veut voir quelqu'un en physio, qu'elle ait plus besoin de machine quelconque ou de gadget, parce qu'au final, le but, c'est de sentir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe et s'ajuster en fonction de ça. C'est vraiment de se reconnecter. Fait que des fois, il y a certains gadgets qui peuvent aider à faire ça, puis des fois, ben ça nous sort trop. Fait que c'est juste de se rappeler, on se recentre, puis de garder en tête les petits points que j'ai nommés par rapport à ça. Mais dans tous les cas, moi, je suis vraiment comme fervente que les gens aillent se faire au moins évaluer en physiothérapie périnéale, là. C'est ne serait-ce qu'une fois. C'est juste pour savoir où est-ce qu'on en est.
Puis qu'est-ce qu'on... Ouais. Tu sais, pour éviter aussi de faire des choses qui nous feront pas de bien sur le long terme.
Ouais,
vraiment. Hey, merci, wow! Ça tellement fait une belle discussion, c'est incroyable. Merci tellement, Michel. Avant qu'on passe à tes services et comment on peut connecter avec toi, j'ai une dernière question parce que je pense qu'elle est très importante. Là, on change un petit peu de registre. Là, on n'est plus dans le fit urinaire, tout ça. Mais c'est quelque chose que tu abordes beaucoup dans tes réseaux. Donc, je voulais qu'on en parle parce que puis là, je les ai écrits parce que je voulais pas me tromper. J'ai écrit plein de termes. J'aimerais ça que tu nous en parles parce qu'il y a plein de problématiques qui peuvent être liées à la santé de la femme, notamment dans le contexte des relations sexuelles.
Mm-hmm.
Alors, je trouvais ça super intéressant qu'on en parle parce que justement, on n'en parle pas nulle part dans des cours d'éducation sexuelle ou des choses comme ça. Donc, j'ai des termes que je pense que la moitié, je les connais pas, donc... J'ai hâte que tu nous éclaires là-dessus. Dyspareunie, ça évidemment, c'en est un que je ne connais pas. Vestibulodynie, le vaginisme, vestibulite et vulvodynie. De qu'est-ce?
Oui.
C'est ça la question. De qu'est-ce?
Super. Ce sont tous des termes qui sont utilisés pour parler d'inconforts qui ont lieu au niveau de la zone pelvienne. Fait que si on les prend un à la fois, dyspareunie, puis là, l'idée, c'est pas de tomber dans les définitions plates. Là, je vais faire je vais donner des petits trucs puis tout ça pour que ça soit aussi intéressant. Dans le fond, dyspareunie, c'est comme un terme un peu parapluie qui réfère aux douleurs, aux relations sexuelles, mais qui, elles, peuvent être en lien avec plusieurs déséquilibres, dysfonctions et tout ça. Fait que souvent, c'est comme utiliser un peu plus at large, si on veut. C'est vraiment un terme parapluie. Ensuite de ça, si on se fait l'anatomie au niveau pelvien, on va avoir, en externe, on va avoir la vulve, on va avoir évidemment tout ce qu'on parle depuis tantôt, le muscle blanche pelvien, tout ça. Ensuite de ça, on vient entrer au niveau du vagin, puis après ça, il va y avoir l'utérus. Fait que je veux juste être sûre que c'est clair pour tout le monde. Et à l'entrée du vagin, fait qu'il y a la vulve, entrée du vagin, ça s'appelle le vestibule. Vraiment comme dans une maison, un vestibule. Et vestibulodynie, vestibulite, ça se trouve à être une hypersensibilité de cette zone-là. Souvent, ça va être ressenti comme de la brûlure, comme une impression de papier sablé. Donc, c'est vraiment ce qui réfère à cette zone-là. Puis pour chacun des termes, il y a des choses qu'on peut faire pour aider. Là, il y a des exercices et tout ça, la thérapie manuelle aussi et tout. Vestibulodynie, vestibulite, il y a plusieurs termes des fois qu'on voit qui sont un peu interchangés. Des fois, c'est aussi niaiseux que ça dépend quand la personne a gradué, parce que les termes changent dans le temps. Des fois, il y a comme, oh là, on est rendu à ce terme-là, là, ça change, blablabla, mais en gros...
Rendu-là, on s'en fâche dans les fleurs du tapis. Parce
c'est ça, exactement.
C'est, ouais, la condition, ok, parfait.
Puis sinon, le vaginisme. Le vaginisme, il y a je te dirais comme deux grands courants. Le vaginisme peut être connu comme une incapacité d'avoir une pénétration, peut-être même l'insertion d'un tampon ou bref. Fait qu'il y a ça. Et il y a de plus en plus de gens qui utilisent le terme vaginisme un peu à toutes les sauces. Fait que des fois, il y a des gens, que ça soit peu importe le professionnel de la santé à l'extérieur, qui va dire vaginisme. Mais vaginisme, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Puis encore là, il y a un spectre de qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Il y a certaines personnes qui l'utilisent comme la pénétration est possible, mais ça va être inconfortable, fait que la personne ne le fait pas. Peut-être qu'elle le fait quand même. Peut-être que c'est absolument impossible. Fait qu'il faut juste faire attention aux étiquettes qui sont mises sur ce qu'on vit. Il faut vraiment revenir aux symptômes, qu'est-ce qui est en présence, parce que des fois, on se fait mettre une étiquette, puis ça colle peut-être pas tout à fait, puis là, on va le chercher sur Internet, puis là, ça dit que c'est pas possible de guérir de ça, puis blablabla, c'est pas le cas. Mais bref, des fois, je suis un peu mal à l'aise avec ces étiquettes-là, puis je sais que quand on a une douleur, on a juste envie de savoir c'est quoi. Il y a comme ce besoin-là d'identifier qu'est-ce qui est en présence, mais au final, c'est pas tant l'étiquette qui compte, c'est qu'est-ce qui est là au niveau du corps, c'est quoi les symptômes, puis comment on peut aider.
Si je me trompe pas aussi, d'aller voir du côté, comme on parlait tout à l'heure, holistique, tu sais, j'ai entendu des témoignages, puis des fois, il y avait des femmes qui disaient avoir réglé leur situation, puis que ça devenait d'une source qui était psychologique, tu sais, qui était puis ça peut être tellement large, puis j'ai envie de référer un podcast ici qui m'a beaucoup éclairée là-dessus, parce que je ne connaissais absolument pas ce monde des douleurs vaginales lors des rapports sexuels. Puis, tu sais, c'est un monde tellement large, puis j'ai vraiment envie d'ouvrir une parenthèse ici, parce que si jamais c'est votre cas, vous êtes en train d'écouter ça aujourd'hui, puis vous dites « Wow, OK, je suis normale », tu sais, c'est, il y a quelque chose qui est... Je suis normale dans le sens que ça se peut, cette condition-là. Je suis pas brisée, tu sais, je peux... Puis surtout, je peux faire des choses. Tu sais, il y a comme, il y a tout l'aspect, parce que nous, on a un peu idéalisé ou on s'est fait une image, une chorégraphie de l'acte sexuel qui implique, en tant que société, dans les dernières années, c'est un homme, une femme qui ont un rapport de pénétration vaginale, tu sais. C'est comme ça, la relation sexuelle, c'est ça la chorégraphie, tu sais. Le summum ou la finalité, c'est la pénétration vaginale. Il n'y a que ça. Et si tu ne peux pas réussir ça, ben là, t'entres dans tout le bagage de t'es pas bonne, tu sers à rien. Tu sais, parce qu'on a tout le bagage aussi inconscient ou dans l'inconscient collectif qu'une femme, ça doit être une bonne mère, une bonne fille, donc qu'elle doit... Donc, il y a tellement de choses qui viennent entrer en ligne de compte dans tout ça. Donc, c'est hyper large. Donc, si jamais c'est votre cas, tu sais, parlez-en, allez voir des professionnels, allez voir les ressources que Michelle offre en ligne. Le podcast que j'avais envie de référer, ça s'appelle « Let's chat » comme une chatte. C-H-A-T-T-E, « Let's » comme L-E-T apostrophe S. Puis il y a deux épisodes, je pense, là-dessus sur les douleurs. Et c'est surtout, c'est pas amené d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue de témoignage. Il y a plusieurs témoignages de femmes qui se sont ouvertes là-dessus. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter ça, parce que ça m'a ouvert les yeux sur le fait que wow! Puis surtout de constater la culpabilité que la plupart portaient, qui n'osaient pas en parler, qui étaient dans le tabou, qui se sentaient coupables, qui se sont fait justement mettre sous un genre de thème un peu parapluie sans trop savoir quoi faire avec ça, comme si c'était comme une fatalité, tu sais. Ah non, toi, c'est une condition, tu peux pas la régler, c'est ça. Puis va vivre ta vie. Fait que c'est vraiment... Ouais! Vraiment. Écoute, merci beaucoup pour tout ça aujourd'hui. J'avais d'autres sujets, mais là, je pense que on a fait un grand épisode. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez aimé, si vous avez d'autres questions, une autre partie. Moi, ça va me faire plaisir de réinviter Michelle, si elle accepte, bien sûr, de venir nous entretenir plus longtemps. Moi, j'ai trouvé ça absolument exquis, ce moment passé avec toi. Donc, on se quitte, bien sûr, en te demandant où est-ce qu'on peut connecter avec toi, quels sont les services et les programmes que tu offres en ligne. Le micro est à toi.
Merci vraiment pour l'invitation, ça a été super, puis c'est vraiment au cœur de ma mission de rendre ces informations-là accessibles le plus possible, parce que je pense que ça devrait être plus connu de tout le monde. C'est super important, c'est tellement une grande partie de nous au final, hein, tout ce qu'on a nommé comme thème aujourd'hui, donc merci en fait de me donner cette opportunité-là de rejoindre encore plus de personnes, vraiment. Et sinon, si les gens ont envie de poursuivre la conversation, me rejoindre, je suis sur Instagram, appelez Yoni Bien-être. Je sais que tu m'avais dit que les choses allaient être dans la description de l'épisode.
Exactement. Donc,
super. Et sur Instagram, la façon dont je te l'expliquais tantôt, j'ai une page Facebook aussi, Michèle Briand, physiothérapeute. Ma page Facebook, c'est vraiment le côté plus physio, on va dire. C'est ça le fulcrum, le point central. Et au niveau d'Instagram, il y a nécessairement la rééducation périnéale. J'en parle beaucoup. Et je rajoute aussi le côté un petit peu plus global, bien-être, la partie aussi plus yoga aussi. Donc, c'est un petit peu plus global comme médium.
Yoga, chakra, magie, féminin sacré. J'adore ça.
Oui. Tout ça. Et sinon, j'offre beaucoup d'ateliers qui sont, là, c'est sûr que pour moi, ils sont super intéressants, là.
Mais non, mais rendu là, t'as même pas besoin de te vendre, c'est comme, on le sait, qu'est-ce qui t'intéresse.
Mais, tu sais, puis en fait, c'est tellement important pour moi de donner vraiment, donc c'est très complet, en fait, c'est vraiment important pour moi, puis je les retravaille et tout ça. Donc, j'ai des ateliers, j'en ai un pour la santé pelvienne durant la grossesse, j'en ai un pour la préparation à l'accouchement avec l'approche physio, j'en ai un aussi en postnatal, on parlait tantôt quand est-ce qu'on recommence les activités physiques, on en parle là-dedans, les relations sexuelles aussi, c'est pas évident toujours en postpartum. Donc, il y a ça, que voilà, ça me passionne énormément, comme on peut entendre, j'imagine, dans ma voix en ce moment. Et sinon, effectivement, j'ai une boîte à outils pour les douleurs aux relations sexuelles que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps d'amour, de présence dans la confection de cette boîte à outils-là. Et c'est vraiment un sujet qui... Puis là, on a terminé avec ça. On n'a pas eu l'occasion pour ça d'en parler, mais c'est tellement un sujet qui me touche parce que je le sais, je le vois. Les femmes qui se présentent dans mon bureau, souvent, il n'y a personne qui a pu répondre à leurs questions. Des fois, ils ont eu des feedbacks, pas toujours, mais des fois plates. Tu sais, y en a encore des gens qui vont dire, des médecins qui vont dire, ben, tu prends un petit verre de vin puis respire, puis ça va bien aller, ma belle. Puis je le dis, puis je suis comme, oh!
Ah, j'ai un frisson d'être
égoutée. Je le nomme pour dire à quel point ce n'est pas correct et surtout, tellement limitant. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis tantôt, tu nommais la partie psychologique, il y a la partie physique, puis souvent, tu sais, les deux sont interreliés. Tu sais, ça va faire un peu... tu sais, si on est stressé, ben notre plancher pelvien va être plus tendu, puis si on a de la douleur, ben on va avoir de l'appréhension pour les relations sexuelles. Fait que tu sais, au final, là, je simplifie énormément la boucle, juste pour faire ça rapidement, mais c'est hyper connecté, puis justement, dans la boîte à outils, ben il y a des exercices, oui, au niveau du périnée, mais on démystifie ce que c'est. On parle justement du fait, notamment, que la pénétration, comme tu disais tantôt, ben c'est pas l'objectif final. Oui, je comprends que c'est quelque chose qu'on a peut-être envie d'atteindre, mais qu'on peut aussi explorer sa sexualité autrement. Que la sexualité, l'intimité, ça peut passer par le biais d'une présence, de comment on regarde son partenaire, du fait d'être collé avec, ça peut être avec l'amour oral, ça peut être plein d'autres choses aussi. C'est important de continuer de cultiver ça. Il y a des séquences de yoga aussi.
Il y avait une citation d'ailleurs par rapport au plaisir, puis je veux la dire parce que ça, moi, ça m'a fait vraiment du bien quand j'ai entendu cette citation-là. Ça disait « Si le sexe était une affaire de plaisir, ce sont les hommes qui seraient pénétrés et non les femmes. » C'est... Puis, j'ai comme, hey, c'est intéressant, mais tu sais, 100% des femmes sont clitoridiennes, tu sais, la stimulation vaginale, c'est le clitoris, mais par l'autre bord, tu sais, qu'on résume ça, là. Mais, tu sais, de le voir comme ça, des fois, ça fait, ah, OK, tu sais, on peut peut-être les défaire, là, les conditionnements, puis l'affaire de la coupe de vin. Tu prends une coupe de vin, puis vas-y, hey, on est dans le conditionnement, là, patriarcal. Le but d'une relation sexuelle, c'est le plaisir masculin, et toi, si tu prends pas de plaisir, ben, pas grave, tu sais, parce que c'est pas ça une relation sexuelle, tu sais, c'est, en tout cas. Alors, voilà.
Donc, l'idée, c'est de vraiment, bref, je donne tout plein d'outils pour se reconnecter, puis vraiment des choses concrètes pour c'est toutes les questions fréquentes que j'ai en clinique, ben c'est toutes là. Bref, je suis très passionnée par qu'est-ce que j'ai comme atelier, programme, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur. Puis c'est comme tu vois, mon but c'est vraiment d'informer les gens, puis qu'il y ait des outils concrets aussi, parce qu'à un moment donné c'est beau la théorie, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour s'aider, c'est hyper important. Donc voilà.
En ce moment, c'est important de le dire, tu prends pas de nouvelles clientèles, donc en one-on-one. Par contre, tu as toute cette panoplie de services-là qui sont offerts via tes réseaux sociaux. Les liens vont être dans la bio. Si jamais vous écoutez ça un peu plus tard aussi, ben on sait pas, peut-être que tu prends des nouveaux clients, mais allez voir sur ce réseau. L'information va être là à savoir si tu acceptes ou non de nouvelles personnes, parce que je prends le temps de le dire parce que j'ai l'impression que tu aurais eu plusieurs demandes après cette belle conversation-là. Ça paraît que tu es une passionnée. Ça paraît que, je veux dire, tu donnes, tu es tellement généreuse, tu donnes tellement. Ça vient pas d'une place de. C'est pas de l'ego, c'est vraiment une mission que tu as. Fait que merci pour tout ça. Puis allez voir vraiment tous tes services. Envoie-moi tous les liens. Je vais mettre tout ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se laisse avec quelques questions en rafale pour te connaître un peu plus personnellement?
Excellent, allons-y.
Ta plus belle leçon de vie?
Qu'on est beaucoup plus libre que ce qu'on croit. Je crois qu'on se limite énormément. Et si on prend le temps de se poser la question si c'est vraiment une limite, une contrainte, ben il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tomber dans notre quotidien. Donc, d'avoir une vie plus alignée, qui nous ressemble et tout ça, tu sais, des fois, nous, il faut, là, au final, il faut pas. On n'a pas besoin. Et ouais.
J'adore ça. Une question un peu personnalisée pour toi. Si tu avais à recommander un livre pour la santé pelvienne?
Oui. En fait, les livres sont principalement en anglais et vont traiter d'une information vraiment précise de manière générale. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses sur la santé pelvienne qui est accessible, qui est digeste aussi pour le public. Oui. Donc, moi, je dirais, je suis pas la seule, hein, il y a plein de physiopérinéales qui prennent la parole de plus en plus avec les médias sociaux, qui offrent beaucoup de, que ça soit des programmes ou juste des informations disponibles comme ça en ligne. Moi, je le fais, mais j'ai des collègues aussi qui le font. Donc, je dirais, peut-être, ça serait pas un livre que je conseillerais, mais plus d'aller voir qu'est-ce qui s'offre en ligne, mais vraiment par des gens que c'est ça leur champ d'expertise, pour éviter d'avoir des informations qui sont peut-être pas... ça, on veut des bonnes informations.
Donc, je reformule, allez voir les outils de Michel. Non, mais c'est super bien dit, t'as été humble là-dessus, là, mais je vais le dire, allez voir ce que tu vois. Les femmes qui t'inspirent le plus en ce moment?
Ça varie tout le temps. Je ne sais pas si je suis la seule comme ça ou si ça va résonner avec d'autres personnes, mais moi, souvent, ça va être comme un certain nombre de semaines ou de mois, puis là, je vais tomber sur quelqu'un qui fait un podcast X, puis là, ça résonne avec quelque chose que je dis, puis là, je suis comme à fond avec cette personne-là, puis ça résonne vraiment, puis après ça, ça change. Fait qu'écoute, je te dirais, en ce moment même qu'on enregistre l'émission, l'épisode, en tout cas, j'ai beaucoup... Récemment, j'ai découvert Chloé Bloom, qui est sur Instagram.
OK, oui.
Fait que ce que j'aime en ce moment, qu'est-ce qui résonne pour moi, c'est vraiment son énergie féminine, comment elle est incarnée en tant que femme dans sa sensualité. Puis tu sais, des fois, ça peut être... Tu sais, des fois, on est comme, oh, est-ce que ça devient vulgaire? Est-ce que ça devient ta-ta-ta? Mais elle, c'est comme tellement... Elle est juste comme ça. Fait que c'est même pas tant qu'est-ce qu'elle dit que qu'est-ce qu'elle est qui m'inspire beaucoup. Puis ça varie. Puis écoute, j'écoute tes podcasts aussi, là. Je veux pas faire ma... ma groupie, mais c'est vrai. Okay.
Oui. Merci. J'espère que tu vas écouter ton épisode. Apparemment, c'est un des meilleurs.
Ah ouais, mon Dieu. Puis sinon, écoute, honnêtement, là, les femmes autour de moi, principalement mes amies proches que je trouve tellement inspirantes, qui vivent des vies alignées, avec qui on a des discussions tellement profondes, puis que je trouve magnifiques au travers des années à avoir évolué, honnêtement, je pense que ce sont mes plus grandes inspirations. Oui, vraiment.
Ton plus grand souhait pour les femmes qui nous écoutent, les gens qui nous écoutent?
Déjà, si ça peut allumer une petite flamme, une conscience de l'importance de la santé pelvienne, de se connaître, de ne pas couper de cette partie-là de notre corps, de notre être, puis de tout ce que ça représente. Vraiment, c'est ça que je souhaite, que de juste, peu importe où est-ce que la personne est rendue, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses sur la santé pelvienne, peut-être que ça va allumer quelque chose de différent. Peut-être que quelqu'un, ça va être le départ, mais dans tous les cas, juste ça, de rendre ça moins tabou, puis peut-être même que ces femmes-là aient, je dis l'audace, ça devrait pas être l'audace, mais d'en parler autour d'elles, puis de peut-être ouvrir sur ces sujets-là. Ouais. On
pourrait créer un cercle de lune. Ouais, je lance ça comme ça, là, mais ouais, okay. L'espace serait propice, hein?
Ça serait super, ouais.
Et dernière question, mais non la moindre, le plus beau témoignage que tu aies reçu?
C'est tellement difficile en ce sens que je travaille tellement dans l'intimité des gens. Dans tous les sens du terme. Oui, physique, mais vraiment tout ce que ça représente. Puis on travaille vraiment, tu sais, le local, c'est à porte fermée, évidemment, pour le traitement. Puis ça crée un petit cocon de confidence. Puis au final, la dimension dans laquelle je travaille, la sphère dans laquelle je travaille, elle touche tellement la qualité de vie des gens, que ça soit des douleurs aux relations sexuelles, que ça soit des fuites urinaires, puis les gens s'empêchent de faire certaines activités qui les font vibrer, qui se limitent par rapport à ça. Fait qu'au final, c'est comme si ponctuellement, j'ai quand même beaucoup de témoignages par cette intimité-là qui est créée, cette connexion-là qui est créée avec la personne. Fait que je pourrais comme pas dire un en particulier. C'est extrêmement nourrissant comme travail parce qu'on le voit directement l'impact sur la qualité de vie des gens. Puis il me le mentionne aussi, tu sais, il me le témoigne. Donc, pas un tout.
Wow! Quelle belle dernière réponse! Michelle, brillant, merci encore énormément pour ta belle présence avec nous. Je ne te souhaite que le meilleur à venir et j'ai bien hâte de reconnecter avec toi encore et encore et encore. Merci beaucoup.
Un grand merci.
Cette heure-là avec Michelle a passé tellement rapidement pour moi. J'espère que c'est la même chose pour vous. Comme je vous le disais, j'espère que cet épisode, son contenu, Michelle va faire beaucoup de chemin et que de hurlement en hurlement comme ça, on fasse passer des messages, qu'on sensibilise ensemble à cette grande question de la santé pelvienne qui est tellement mise de côté. Merci à Michelle pour tout ça. Si c'est pas wow, je me demande bien ce que c'est. Alors, pour connecter avec Michelle et voir ses prochains ateliers sur la maternité, regardez les liens dans la description. Même principe pour découvrir sa boîte à outils pelvienne qui porte sur les douleurs et inconforts aux relations sexuelles. C'est une super boîte que vous pouvez suivre à votre rythme. Un beau 10 heures d'accompagnement, d'enseignement et d'exercice pour cheminer dans et surtout vers le plaisir dans les relations sexuelles. Toutes les femmes méritent d'avoir une vie sexuelle épanouie. Donc, si ça a vibré pour vous, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Merci à Michelle pour toute cette générosité de toutes les leçons, tous les apprentissages. On voit que c'est quelqu'un qui connaît ses affaires, qui est une véritable experte. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à très bien vulgariser des concepts qu'on devine assez complexes. D'ailleurs, il y avait une super belle citation d'Albert Einstein que j'ai toujours gardée dans mon trousseau de citations. Et c'est la suivante, je vais peut-être un peu l'adapter, mais c'est « Si vous n'êtes pas capable de l'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne l'avez pas vous-même compris. » Ouais. « Si vous n'êtes pas capable de l'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas vous-même. » Donc, ouais, voilà, c'est mieux ça. Donc, c'est un peu ce principe-là. Alors, je trouve que Michel fait très hommage à cette belle et grande citation. Et merci. Merci pour tout ça. Alors, sur ces mots, vous devinez sans doute que je suis en train de déparler parce qu'il est très tard chez moi. Donc, je ne vous parle pas davantage avec ces petits mots confus. Je vous envoie énormément d'amour. Merci d'être à l'écoute. Et je vous reparle très bientôt dans un prochain épisode à saveur très sauvage, pour ne pas dire primitive. À bientôt.